BW. Vue d'Allemagne.
Quatre vingts ans après, le monde a commémoré le 27 janvier la libération du camp d'Auschwitz où 1 million de Juifs, Sinti et Roms ont été tués. On revient en début d'émission sur la commémoration avec aussi cette question, c'était quoi Auschwitz? En seconde partie d'émission, on cherchera à savoir comment réussir la transmission de la mémoire de l'Holocauste alors que la plupart des survivants de ce camp disparaissent. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. Au micro, Reliou Koubakin, Willkommen, bienvenue. Il y avait du monde lundi 27 janvier à la cérémonie marquant les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Outre le président polonais, son homologue français, le roi Charles de Grande-Bretagne, le chancelier et le président allemand, mais pas de délégation russe. Le camp d'Auschwitz-Birkenau était le plus grand camp de concentration allemand situé non loin de Cracovie dans le sud de la Pologne alors occupée. Plus d'un million de personnes, en majorité des Juifs, y ont été déportés et exterminés par les nazis entre 1940 et 1945. Christoph Heubner est le vice-président du comité international d'Auschwitz.
Il s'agissait d'une scène de crime organisée par l'État qui consistait à mettre en place un appareil industriel pour tuer des personnes bien précises, des personnes juives, des Sinti et des Roms et bien d'autres encore.
Parmi les personnes assassinées, il y avait Benton Natanova, exterminé le 10 janvier 1945, peu avant la libération du camp. Son épouse Anka Natanova et Eva, sa fille, aujourd'hui Eva Clark, sont des survivantes de plusieurs camps de concentration, y compris celui d'Auschwitz.
Ma mère s'est portée volontaire pour suivre mon père parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'était Auschwitz. Ils avaient entendu des rumeurs bizarres, mais ce n'était que des rumeurs bizarres. Ils n'y croyaient pas. Et elle pensait que comme ils avaient survécu 3 ans jusque-là, il n'y aurait rien de pire. Elle était loin de s'en douter.
Eva Clark, interrogée par l'agence Associated Press, Eva Clark, qui aura 80 ans le 29 avril prochain, vit encore en Grande-Bretagne.
DW.
Osvienchim, le nom ne vous dit probablement pas grand-chose, pas vraiment une ville importante en tout cas. C'est une localité polonaise d'un peu plus de 10 000 habitants que l'armée allemande a occupée en 1939, annexée et rebaptisée Auschwitz. On retrouve Christoph Heubner, vice-président du comité international d'Auschwitz.
Auschwitz ist so, wie Sie sagen, das Synonym für die Deportation.
Auschwitz est le synonyme de la déportation car il a été choisi en fonction de sa situation au centre de l'Europe et de son accessibilité par les trains de déportation. Il y avait, vous le comprenez, des considérations logistiques derrière.
Car Auschwitz a finalement commencé sur de nombreux quais de gare en Allemagne et en Europe. Les nazis ont ainsi transporté par train, souvent des wagons à bestiaux, des juifs de nombreux pays européens vers Auschwitz et d'autres camps. Des trains, les détenus partaient directement vers les chambres à gaz et l'assassinat. D'autres arrivaient d'abord au camp de concentration comme main-d'œuvre. Quand on arrive et qu'on n'est pas directement envoyé dans la chambre à gaz, on ne survit de toute façon pas longtemps à Auschwitz, 3 mois maximum, racontait Anita Lasker-Wallfisch en 2018 lors d'une cérémonie de commémoration au sein du Parlement allemand. Le fait de jouer de la musique aurait donné une chance de survivre à celle qui aura 100 ans en juillet prochain. Le 27 janvier 1945, des soldats de l'armée rouge sont arrivés au camp. Christoph Heubner, qui a accompagné de nombreux survivants en tant que vice-président du comité international d'Auschwitz pendant de nombreuses années, résume leur récit.
C'était un moment d'immobilité absolue. Les libérateurs étaient devant les portes d'Auschwitz. Les jeunes soldats soviétiques d'Ukraine, de Russie et d'autres républiques de l'Union soviétique de l'époque n'en croyaient pas leurs yeux. Ils avaient vu beaucoup de choses, mais pas ceux qui se tenaient là, à savoir des morts sur deux jambes. Ce n'est qu'en voyant les visages et les yeux que l'on a compris que c'était des squelettes vivants.
7000 personnes ont survécu à la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge le 27 janvier 1945. Une cinquantaine de survivants d'Auschwitz sont encore en vie. Lundi 27 janvier, jour de commémoration, le secrétaire général de l'ONU a appelé le monde entier à bannir la haine. Antonio Guterres s'exprimait au siège des Nations Unies.
Aujourd'hui, notre monde est fracturé et dangereux. 80 ans après la fin de l'Holocauste, l'antisémitisme est toujours présent, alimenté par les mêmes mensonges et la même haine qui ont rendu possible le génocide nazi. Et il ne cesse de croître. La discrimination est monnaie courante. La haine est attisée dans le monde entier. L'un des exemples les plus clairs et les plus troublants est la propagation du cancer du négationnisme. Et des efforts sont déployés pour réhabiliter les nazis et leurs collaborateurs. Nous devons nous opposer à ces outrages.
Auschwitz-Birkenau est devenu le symbole de l'Holocauste perpétré par l'Allemagne nazie sur 6 millions de Juifs européens, dont 1 million sont morts sur le site d'Auschwitz. Le 27 janvier, jour de la libération du camp, a été proclamé par les Nations Unies journée de commémoration de l'Holocauste. Merci à Christophe Strack pour sa contribution à ce sujet. Vous écoutez le magazine Vue d'Allemagne, place à la seconde partie. On reparle comme prévu des commémorations pour le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Une cérémonie très particulière, hein, car il s'agissait probablement de la dernière en présence de rescapés du camp. Alors que ces survivants sont amenés à disparaître dans les prochaines années, comment faire vivre et transmettre la mémoire de l'Holocauste en l'absence des témoins? Le reportage d'Adrien Sarla.
Je suis née dans une famille de confession juive, du côté de mon père comme du côté de ma mère.
Rescapée de la Shoah, Monika Goldwasser a pris l'habitude de raconter son histoire face à des classes d'élèves depuis des années.
Quand les nazis ont raflé les juifs qui étaient listés sur les registres, ma mère tenait une poupée contre elle au lieu de moi. Une poupée qui portait mes vêtements. Elle faisait comme si c'était moi dans ses bras. C'est ce qui m'a sauvée de la déportation.
Comme elle, beaucoup de survivants ont longtemps préféré taire leur histoire à la fin de la guerre, avant d'accepter d'en parler publiquement au nom du devoir de mémoire. Aujourd'hui, les plus jeunes d'entre eux ont près de 85 ans et disparaissent les uns après les autres, emportant avec eux leurs précieux témoignages qu'aucun livre d'histoire ne remplacera jamais. Une perte regrettable, selon le directeur du musée d'Auschwitz, Piotr Trzywinski.
Quand les rescapés rencontrent des jeunes dans les écoles ou les lycées, les jeunes ne leur demandent pas ce qu'il s'était passé tel ou tel jour, des dates avec des faits précis et des chiffres. Ce qu'ils demandent, c'est comment vous sentiez-vous lorsque vous étiez dans les camps? Où est-ce que vous trouviez des sources d'espoir pour surmonter tout ça? À quoi vous pensiez?
Des questions très subjectives sur l'expérience et le traumatisme des camps que le musée d'Auschwitz souhaite mettre en valeur dans les années à venir. Une nouvelle exposition permanente dans le bâtiment des cuisines est en préparation. Elle sera consacrée à des dessins et œuvres d'art réalisés par les rescapés évoquant leur vie dans les camps.
Sur ces œuvres et ces croquis, on voit très clairement l'impact du processus de déshumanisation. Ces regards qui sont retranscrits, pour moi, c'est quelque chose d'incomparable à quoi que ce soit au monde. Bien sûr, cette exposition est un projet de long terme. Pour l'instant, on est encore à choisir parmi les 4000 œuvres en notre possession, lesquelles pourraient servir à créer cette narration.
Les pièces sélectionnées devraient être exposées d'ici 5 à 6 ans. Mais déjà, la disparition progressive des témoins directs de la barbarie nazie se fait sentir au musée. Thomas Schmiraldo, le responsable des guides du site, sent naître en lui le sentiment d'un devoir de transmission.
Moi-même, j'ai l'habitude de raconter l'histoire de gens que j'ai personnellement rencontrés ici, mais qui ne sont malheureusement plus parmi nous aujourd'hui. Un survivant m'a dit un jour qu'une fois que tous les témoins directs auraient disparu, ce sera nous, les guides, qui deviendrons les témoins de facto. Et c'est à nous que reviendra la responsabilité de transmettre l'histoire d'Auschwitz.
Mais Auschwitz, c'est aussi et surtout la petite ville polonaise d'Oświęcim, rebaptisée par les Allemands lors de l'invasion et de l'établissement des camps de la mort dans le quartier de Zasolé.
Derrière moi, vous voyez une place, mais c'est là que se trouvait la grande synagogue avant d'être incendiée par les Allemands en 1939.
Majoritairement juive jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, la ville a été complètement transformée par les nazis. Mirosław Ganobis habite justement dans le quartier bâti par les Allemands, dont les bâtiments ont été conservés après-guerre.
C'était censé être une ville allemande moderne qui incarnait le prestige allemand. C'est pour ça qu'ils ont fait construire ce quartier avec les bâtiments que l'on voit sur la gauche pour loger les cadres de l'industrie allemande venus de toute l'Allemagne qui produisaient du carburant, du textile et du charbon pour alimenter la guerre.
Sa passion pour l'histoire de sa ville natale, Mirosław, la doit à sa grand-mère. Aujourd'hui, il a fait de sa cave un musée miniature dans lequel il expose les quelques 4000 vestiges de l'histoire de la ville glanés au fil des ans. Lettres, costumes trois pièces, gramophones ou encore machines à écrire, toutes sortes de bibelots s'entassent dans cette caverne d'Ali Baba souterraine.
Pour moi, c'est très important d'avoir pu discuter avec des gens qui se souvenaient de l'Holocauste, des camps de concentration. Ils ont vécu tout ça. Mais grâce aux souvenirs que j'ai rassemblés, ce qu'ils m'ont raconté va rester. Je vais pouvoir le transmettre aux nouvelles générations à travers les films que je réalise, à travers les visites que je fais aux habitants, mais aussi aux touristes. Je leur parle de tout ça car je fais le lien entre les témoins qui nous quittent peu à peu et les visiteurs d'aujourd'hui.
Une façon pour lui de transmettre sa passion, mais aussi d'honorer un devoir de mémoire dans une ville meurtrie par l'histoire. Adrien Sarla, de retour d'Auschwitz pour la Deutsche Welle.
Peut-être aussi un signe pour s'assurer qu'on n'oublie pas ce qu'il s'est passé lors de la commémoration à New York de la libération du camp d'Auschwitz. 10 survivants ont immortalisé leur témoignage grâce à l'intelligence artificielle. Voilà qui met fin à cette édition de Vue d'Allemagne. À écouter et réécouter sur le site internet, les réseaux sociaux et la plateforme de podcast de votre choix. La semaine prochaine, c'est Anne Letouzé à ce micro. Tchuss!